pas drôle parce que je peux rien faire, je peux même pas lire une recette, je peux plus manger.
Angela Davis was arraigned in the same San Rafael Civic Center where last summer a district judge was killed in an abortive kidnap attempt. Security precautions were extraordinary. Each spectator carefully searched for weapons. There's been one bomb explosion and innumerable bomb scares here in the months since the judge's murder. Miss Davis entered the courtroom, turned and gave a black power salute to the gallery, composed mostly of newsmen, and sat down next to her two temporary lawyers. Judge E. Warren McGuire ordered a copy of the charge delivered to her and advised her of her rights to an attorney and to a jury trial.
When the Attorney General arraigned me in California after the extradition, he indicated that he wanted the death penalty on each of the three charges. So he wanted the death penalty three times. That made me realize how serious they were. And again, it made me realize that it wasn't about me. Because first of all, I couldn't be killed three times. It was about the construction of this imaginary enemy. And, you know, I was the embodiment of that enemy.
Salut à tous, bienvenue dans le texte. Je suis heureuse de vous retrouver et de recevoir aujourd'hui Stella Magliani Belkacem. Bonjour.
Bonjour.
Et bienvenue. Alors Stella, vous êtes éditrice et vous avez travaillé à la coordination avec Félix Boggio, Morgane Merteuil et Frédéric Monferrand d'un ouvrage collectif pour un féminisme de la totalité qui vient de paraître aux éditions Amsterdam. Alors c'est un recueil d'articles émanant de la pensée féministe contemporaine, la plus progressiste, la plus critique aussi, critique notamment vis-à-vis du féminisme institutionnel, dans lequel vous dénoncez une tendance fâcheuse à épouser les dérives réactionnaires de l'idéologie dominante, un féminisme qui est volontiers raciste, islamophobe, ce féminisme par exemple qui exige des femmes qu'elles se dévoilent, stigmatisant les populations musulmanes au nom de l'émancipation des femmes. Face à ce féminisme institutionnel, l'intersectionnalité est venue proposer d'articuler les différentes formes de discrimination. L'intersectionnalité structure le champ des recherches féministes contemporaines et s'efforce donc d'articuler ensemble discrimination de classe, de race et de sexe. Mais l'intersectionnalité elle-même montre ses limites, échouant le plus souvent à penser ces discriminations autrement que séparément. Et c'est ici que vient prendre place le concept de totalité. Pour un féminisme de la totalité, ce serait donc un féminisme qui échappe aux dérives réactionnaires du féminisme institutionnel et qui ne cède pas aux limites de l'intersectionnalité, qui s'efforce donc de penser ensemble, d'articuler les discriminations différentes et qui travaille donc à une transformation radicale des rapports sociaux afin d'en éradiquer toutes les formes de domination. Domination de race, domination de classe, domination de sexe. Alors ce féminisme de la totalité, Angela Davis avait au fond proposé d'en poser les prémices dans un texte que vous publiez en fin d'ouvrage, qui est magnifique, il date de 1985. Angela Davis s'adresse en ces termes à son auditoire, c'était une conférence publique. Elle disait ceci, « L'élimination définitive de la violence sexiste dépendra de votre capacité à construire un nouvel ordre révolutionnaire mondial où sera effacée toute forme d'oppression et de violence contre l'humanité. » Mondial, révolutionnaire, toutes les violences, toutes les oppressions, le concept de totalité était déjà là. Et pourtant, elle n'emploie pas le terme de totalité. Il me semble que c'est une notion que vous proposez, vous, dans l'introduction, vous les coordinateurs de l'ouvrage. Et donc, ma première question portera sur le choix de ce terme, la notion de totalité. Pourquoi ce terme et quel est l'enjeu politique d'un féminisme de la totalité ?
Précisément, vous avez raison de poser ça en termes d'enjeu politique parce que peut-être que les limites de l'intersectionnalité, enfin l'intersectionnalité, c'est avant tout du bon sens. Mais il semblerait que l'intersectionnalité ne peut pas porter des visées proprement stratégiques. Parce que il faut en connaître d'abord les origines, et vous avez raison de parler de lutte contre les discriminations, parce que l'intersectionnalité, c'est un concept qui naît dans les théories critiques du droit. Donc on pense en termes de lutte contre les discriminations. Mmh. Et l'idée de l'intersectionnalité, et à ce à quoi sert ce concept, c'est à penser la différence, à penser le cas particulier. Ah, oui. Donc on pense d'abord des rapports de genre, des rapports de classe, des rapports de race, de manière isolée. Et ensuite, on peut se poser la question de leur interaction. Mmh. Comment ils s'articulent, comment ils se coproduisent, comment l'idée de la totalité ou de la totalisation, c'est d'abord une première ambition, c'est de se poser comme une exigence. Et la première ambition, c'est aussi de se poser dans une histoire longue, celle d'une période historique que serait le capitalisme, et se dire avant toute chose, c'est le capitalisme qui produit ces différences. Et précisément parce que c'est un système qui s'inscrit dans une histoire longue, il peut être mis en crise et on peut gagner sur certains plans, reculer sur d'autres encore, mais la lutte est possible et on peut à partir de là penser une lutte féministe en termes stratégiques. Une autre chose aussi qui est précieuse pour nous quand on parle de totalité et donc à partir de l'histoire longue du capitalisme, c'est considérer, et c'est le cas de nombre de féministes qui interviennent dans cet ouvrage, que le capitalisme est venu perturber durablement et conséquemment au moins trois choses, l'État, la famille et la propriété. Et il nous semble que précisément le mouvement féministe, la lutte féministe a maille à partir avec l'État, la famille et la propriété.
Bien sûr. Alors, en articulant comme ça la question féministe avec l'origine du capitalisme, on revient à des propositions qui ont été faites par notamment Silvia Federici, dont un entretien figure dans votre ouvrage, mais je me permets de renvoyer, pour ce qui est de Federici, au absolument remarquable ouvrage qui a été traduit en 2014 en France, mais qui date de 2004. Caliban et la sorcière, j'ai jamais eu l'occasion d'en parler dans le texte, mais il faut absolument passer par cette étape-là de Federici pour comprendre comment le capitalisme est effectivement, l'avènement du capitalisme au sortir de l'époque féodale, hein, vers le 15e siècle, c'est le moment de l'asservissement, de l'assignation des femmes à résidence, hein, c'est le moment où on va inventer le statut de la femme au foyer. Elle démontre ça d'une manière absolument magistrale. Et pourtant, quand on articule comme ça capitalisme et oppression des femmes, on ne peut pas s'empêcher de faire la petite défense intellectuelle consistant à dire « mais attends, il y avait de l'oppression des femmes avant le capitalisme ». On prend la société, la civilisation grecque antique par exemple, est une civilisation profondément sexiste, machiste. Or là, on n'a pas le sentiment qu'on a affaire au système capitaliste. Alors comment on résout cette contradiction? Est-ce que vraiment le sexisme, est-ce qu'on peut dire que le sexisme est né du capitalisme alors qu'il y a des cas avérés de société patriarcale?
Je pense qu'il y a un petit contresens sur Federici ou encore Leacock dans l'ouvrage. Il ne s'agit pas de dire, ou Engels, il ne s'agit pas de dire que l'oppression des femmes est née avec le capitalisme. Engels, lui, il parle par exemple de la manière dont la propriété
privée, c'est tout à fait.
Elle existe avant le capitalisme.
Ouais. Hein.
Mais c'est surtout de dire que le capitalisme, c'est une ère qui est quand même très longue et qui a perturbé durablement la famille, le statut des femmes, son rapport au savoir. Donc il ne s'agit pas de dire que l'oppression des femmes, ni pour Federici, ouais, ni pour Leacock, ni pour aucun marxiste au monde, je crois,
ouais,
de dire que l'oppression des femmes est née, ouais, avec le capitalisme. Par contre, ce qu'il faudrait faire attention à ne pas considérer comme acquis, c'est qu'il y a parfois, dans les espaces militants, l'idée que, un peu mythique, que de tout temps, en tout lieu, les femmes ont été opprimées.
Oui.
D'abord, c'est une idée qui est morbide, parce que dans ce cas-là, pourquoi lutter? Et par ailleurs, vous parliez de Federici. Alors, l'ouvrage date pas de 2004. Je le signale parce que l'ouvrage date d'il y a 30 ans. Et c'est un ouvrage qui est fondamental,
ouais,
dans la discussion féministe à l'échelle contemporaine. Et c'est grâce à une petite maison d'édition, hein, Entremonde, une petite maison d'édition suisse qui distribue en France, que cette traduction a pu être faite 30 ans après. C'est un livre qui a très bien marché.
D'accord, ça ne date pas de 2004 alors. D'accord, j'étais induite en erreur par des mentions.
Il y a dû avoir une première édition,
oui,
de Saint-Séverin, une encore plus petite maison d'édition.
Enfin, d'accord.
Je dis sûrement des bêtises, parce que je ne connais pas trop ce micro.
Voilà, parce que moi je m'étais référée à sa édition originale anglaise publiée par Autonomédia 2004.
Oui, c'est l'édition de référence, à mon avis, de la traduction. Mais c'est toute l'œuvre de Federici a été marquante et date de très longtemps. Elle a été très peu discutée en France. Mmh. Et il y a eu la nécessité d'un livre comme le nôtre, par exemple, et de prendre la question de la lutte féministe d'un point de vue très théorique. C'est parce que d'abord, il y a une nécessité et un besoin qui est notable d'une pratique théorique dans le champ féministe. On le voit parce que d'abord, ce livre-là, il s'inscrit dans une collection, qui est la collection Période, liée à un site en ligne, et les articles féministes, ce sont les plus lus.
Mmh.
Et notamment parce que ce soit sur la question raciale, sur le féminisme, quand on est inscrit dans des luttes qui sont marginalisées dans le mouvement ouvrier, peut-être qu'on a envie d'avoir plus d'arguments que les autres. Mais peut-être aussi qu'en France, il y a une production qui était effectivement multiple, mais qui a été très isolée du débat international pendant très longtemps, mmh. et d'où la nécessité d'une publication comme celle-ci.
La chasse aux sorcières. La chasse aux sorcières, à mon avis, dans les premiers siècles du développement du capitalisme, a été un des process fondamentaux par la construction de la société moderne et des rapports capitalistes d'aujourd'hui. A été très fondamental parce que la chasse à les sorcières a servi à préparer la femme à son destin domestique, a servi aussi à donner à l'État le contrôle sur le corps de la femme, non? Et à faire de le corps de la femme un instrument pour la procréation des travailleurs. La chasse aux sorcières a servi à établir un contrôle très direct, par exemple avec la peine capitale.
Alors, dans cette articulation entre capitalisme et questions féministes, à la manière dont le capitalisme perturbe un certain nombre de structures sociales, notamment la propriété, la famille, et donc la condition des femmes s'en trouve à chaque fois profondément transformée, au cœur de cette question, il y a toujours la question de l'État. On le voit notamment avec les avancées les plus récentes du capitalisme, sous la forme du néolibéralisme, depuis 4 décennies. Le néolibéralisme a consisté notamment en un siphonnage des services publics d'aide pour les tâches de la reproduction sociale, aide pour la petite enfance, pour les personnes dépendantes. Ce qui fait apparaître que l'État, au fond, l'État-providence, était plutôt le soutien des femmes. Et que le capitalisme, quand il détruit l'État-providence, et le néolibéralisme, quand il achève de détruire l'État-providence, il met en danger les femmes. Mais du coup, ce qu'on voit, c'est que les femmes, la condition des femmes, a plutôt besoin d'État, au sens où elle aurait besoin de l'État-providence qui permet de venir porter assistance à un certain nombre de tâches liées à la reproduction, la gestion de la petite enfance ou de la grande dépendance. Et là, il y a comme une espèce d'ambivalence, de contradiction qui apparaît dès l'introduction de ce texte, puisque l'État vous paraît, comme souvent très à gauche, plutôt comme un adversaire et un problème. Et vous travaillez en introduction au dépérissement de l'État. Mais vouloir faire dépérir l'État, est-ce que c'est pas, quand on est féministe, se priver du meilleur allié qui soit, puisque l'État, ce peut être aussi l'État-providence qui vient fournir des prestations qui libèrent les femmes des tâches de la reproduction sociale. Alors, comment être proposer un féminisme progressiste articulé à l'État? Comment on s'articule à l'État?
Alors, aujourd'hui, ce que serait un féministe que vous appelez progressiste, mais que pour notre part, on pourrait appeler révolutionnaire, aujourd'hui, ça serait évidemment attendre de l'État, demander à l'État et exiger de l'État évidemment plus de prestations sociales, évidemment plus de services publics, c'est-à-dire qu'il s'agit de sortir du débat pro ou anti-État. La question n'est pas là. La question est d'abord des pépettes avant le communisme. Et par contre...
D'abord un État fort et après on va le...
Non, pas
et
un
après
état on fort. Va travailler. J'ai pas parlé d'État fort. Hein. Ouais. C'est-à-dire
un État riche.
On se doit, nous, d'exiger de l'État des prestations sociales, des services publics, mais on doit garder en tête et précisément lutter pour un désarmement de l'État. Parce que évidemment, on peut pas aujourd'hui les luttes anti-racistes parlent de racisme d'État. Ouais. Qui aujourd'hui parle de sexisme d'État? Il n'y a pas à douter que l'État aujourd'hui est l'opérateur majeur du sexisme et la production de masculinité néfaste.
Par exemple, sous quelle forme? Comment est-ce que l'État est opérateur de sexisme?
Parce que l'État, il est d'abord le mettre fin au tout carcéral, et à comment la prison fabrique aussi des masculinités, comment l'arbitraire policier, le contrôle policier, l'arbitraire judiciaire, pour en revenir à ce qu'on attendrait d'un mouvement féministe, et quand je parle de désarmer l'État, c'est mener une lutte féministe qui soit une lutte anticarcérale, une lutte qui s'exerce contre la police, et qui n'attende pas précisément devenir se faire appuyer par les appareils répressifs. Et c'est aussi repenser, quand on parlait des prestations sociales ou des services sociaux, repenser les services sociaux. Aujourd'hui, en France, les services sociaux sont des appareils qui sont façonnés par le sexisme, qui sont hautement façonnés par le racisme et qui sont des appareils répressifs. Le problème de l'extrême gauche, c'est que nombre de camarades sont, pour beaucoup, dans la gauche radicale, profs, éducateurs spécialisés, ils ne se rendent même plus compte à quel point ces espaces-là sont aussi des espaces répressifs. Pour préciser ce que je dis par rapport au mouvement féministe, aujourd'hui, on va prendre les quelques campagnes qui ont marqué les dernières années. Le CNDF, le Collectif National pour le Droit des Femmes, qui est un collectif ancré dans les espaces à gauche de la gauche, ancré dans les espaces syndicaux. C'est un collectif qui réunit de nombreuses associations issues des partis à gauche et à la gauche et qui a eu pour principale revendication ces 10 dernières années la loi cadre contre les violences faites aux femmes. Et peu importe que cette loi introduise par exemple du droit d'exception et donc sorte du droit commun. Peu importe si cette prévention, elle passe avant toute chose par... donner plus de moyens à la police. D'autres campagnes plus récentes, il y a eu une grande focalisation ces dernières années sur le harcèlement de rue. Et c'est les camarades se féliciter que cette campagne fasse la une du Parisien. Il s'agit de se demander quand même qu'est-ce qu'appelle une telle revendication, à part plus de flics dans la rue. À part plus de flics dans la rue, dans les quartiers où précisément les mecs draguent dans la rue et pas dans des bars à cocktails, c'est-à-dire chez les pauvres, chez les noirs, chez les arabes. La dernière campagne en date, qui était plus une campagne médiatique que militante, c'est par exemple Média, une campagne militante de ce type à Aubervilliers, sur la question des PMU et de la place des femmes dans les PMU.
Ah oui.
Donc ça, c'est une...
Là, on fait référence au bar de Sevran. J'imagine Sevran, le bar PMU de Sevran, dont il est apparu que... Enfin, c'était une espèce de
vaste
escroquerie. Enfin, le reportage est une... Le reportage qui était passé à France 2 était une énorme escroquerie, hein, quasiment un coup monté. Et en réalité, les femmes sont tout à fait bienvenues dans ce bar-là. Enfin, cette affaire d'un bar à Sevran qui n'accepterait pas les femmes était un coup monté assez dégueulasse. Et je vous renvoie à l'émission de Arrêt sur image qui a été tournée dans ce bar à Sevran où on voit que c'est vraiment une arnaque médiatique. Il ne faut pas se laisser manipuler par ça.
Mais il ne s'agit pas que d'une arnaque médiatique. Il y a des espaces aujourd'hui féministes inscrits dans des majorités de gauche, à Aubervilliers par exemple, qui s'inquiète pour beaucoup de le fait que les femmes ne soient pas présentes dans des bars qu'elles considèrent trop communautaires, sans se demander si à Aubervilliers, par exemple, les femmes ont véritablement accès à plus de travail, plus de place en crèche pour pouvoir
qu'elles puissent se permettre d'aller au bar, tout simplement, parce qu'elles s'occupent des petits.
Et
ouais.
Si elles ont besoin ou envie de loisirs, est-ce qu'elles ont envie d'aller au bar, par exemple? On se pose pas vraiment cette question-là.
Pourquoi les hommes rejettent-ils les femmes? Un problème de tradition, de culture, mais aussi de religion, selon ces militantes.
En 2005, quand il y a eu les révoltes des banlieues, on a appelé les grands frères pour calmer les jeunes. Et puis voilà, qui dit grands frères, ça veut dire qu'on a exclu déjà la femme, on a exclu la mère, on n'a pas fait appel aux parents, ce qui aurait été plus légitime. En fin de compte, on a donné la place à ces hommes qui aujourd'hui, j'allais pas dominent, mais qui ont pris les quartiers, qui ont pris la place, quoi.
L'islam, ils l'ont mixé. Pour moi, l'islam, c'est comme le code pénal maintenant. Et voilà, faut pas faire ça, ça c'est interdit, ça c'est interdit. Tout est interdit, alors qu'on est en France quand même.
Et aujourd'hui, je pense que...
Pendant l'interview, une voiture s'arrête.
Voilà, on peut pas sourire parce que notre combat est légitime.
Qu'est-ce que c'est, ça? Les plus jeunes que je
connais. Une façon d'intimider ces femmes, régulièrement menacées. Elles préfèrent arrêter l'interview.
Alors la voiture, je sais pas, vous avez reconnu la voiture, non?
Oui, je sais c'est quoi.
Alors c'est quoi? Ah bah voilà.
Allez-y. C'est la BAC.
La voiture, non?
Oui, c'est la BAC.
Ah non, c'est une belle voiture pour la BAC. Hein.
Bah c'est la BAC.
D'accord.
On l'a tournée 10 jours avant, la tournée entre temps.
On va la revoir là, et ils ont des voitures banalisées comme ça.
Oui, bien sûr.
La BAC, d'accord.
Et ça c'est la BAC. Vous demandez à n'importe qui à Sevran de la rue, va vous dire c'est la BAC.
D'accord. C'est la voiture, vous la connaissez?
Oui, bien sûr. C'est la BAC.
Donc tout ça pour en revenir à ce que serait aussi qu'un féminisme qui, la question c'est, quand on parle de dépérissement de l'État, c'est pas anti-État. L'idée, c'est, oui. c'est quand même un processus.
Et oui,
un processus
c'est pour s'inscrire contre tout, un féminisme répressif, un féminisme carcéral. Mais donc, par exemple, sur la question du viol, si on se tourne pas vers les solutions répressives et carcérales, un féminisme révolutionnaire, comment envisage-t-il la question du viol et qu'est-ce qu'il fait des violeurs si on essaie d'éviter à tout prix les solutions répressives et carcérales? Qu'est-ce que c'est la bonne approche de la question du viol?
Pour moi, d'abord, un féminisme révolutionnaire, c'est pas un féminisme qui vit comme si on était après la révolution. C'est-à-dire que aujourd'hui, je ne dirais pas à une camarade victime de viol ou de violence, va pas voir la police parce que c'est la justice bourgeoise qui prendra. Non, il s'agit pas de ça pour moi.
D'accord.
Et ce qui me permet de dire, précisément, quand on parle de totalité, c'est que il n'est jamais question pour nous, d'envisager le féminisme comme une éthique interpersonnelle. Donc il ne s'agit pas de savoir si une femme va au commissariat ou pas, mais qu'est-ce qu'à l'échelle de mouvement, qu'est-ce qu'à l'échelle des luttes, on peut imaginer comme nouvelle contre-institution, comment on peut imaginer aussi en appeler aux institutions. Il s'agit pas d'en appeler aux institutions en leur mais il s'agit de ne pas leur demander plus de police, par exemple.
Oui, oui.
Il s'agit pas de voir dans la question carcérale, mais après, à l'échelle interindividuelle, considérer aujourd'hui qu'une camarade ne devrait pas aller voir la police quand elle est victime de viol, il s'agit pas de ça.
Oui, non, ça, c'est une erreur. Mais du coup, comment on fait pour penser, justement, en termes institutionnels, en fait, la question, c'est quelles institutions penser qui ne soient pas des institutions répressives, justement. Quelles sont les institutions vers lesquelles on peut se tourner pour essayer de sortir de la violence sexiste, justement. Comment apprendre à penser autrement que par l'institution répressive?
Alors, l'idée, c'est pas uniquement de penser autrement et de faire des contre-institutions qui seraient des espaces, en fait, humanitaires ou caritatifs. Hein. Mmh. Aujourd'hui, on pense un projet d'avenir, de société, mais on se dit pas, on va faire une association qui va punir les violeurs par l'autodéfense de manière interpersonnelle. Hein. Il s'agit pas de ça. Mais il s'agit de se demander comment on change dans la totalité, la société. Quelles sont les masculinités, quelle masculinité est construite pour que le viol soit possible?
Et pas seulement les masculinités, d'ailleurs, parce que ce que l'ouvrage montre remarquablement, c'est que, au fond, ce qui fait qu'il y a par exemple, une recrudescence des violences sexistes, c'est pas tellement la question de quelle masculinité. C'est très souvent lié au contexte économique, tout bêtement. Enfin, il y a un certain nombre d'articles qui relèvent le fait que, depuis la crise de 2008, crise des subprimes, donc, puis crise financière, crise économique majeure, il y a eu une recrudescence des violences sexistes absolument spectaculaires qui montrent bien que, indépendamment des cultures de masculinité ou pas, alors évidemment, elles jouent aussi, mais ce qui fait que tout à coup, il y a à nouveau de la violence sexiste et dans des proportions très spectaculaires, c'est un phénomène d'appauvrissement, de précarisation des couches sociales les plus défavorisées ou des pays du monde qui subissent le plus violemment cette crise-là. C'est-à-dire que le viol et les violences sexistes, en fait, sont pas seulement l'expression d'une masculinité, hein, mais la traduction d'une violence sociale dans les rapports de genre.
Ah, oui, il n'y a pas que les pauvres qui violent. Hein.
Non, tout à fait.
Ils violent pas plus que les autres. Hein.
Non, tout à fait. Et ça, effectivement, il y a un certain nombre d'études qui montrent très bien que le viol est un phénomène absolument transclasse, transrace, ouais. C'est absolument universel, mais qu'il y a des facteurs d'aggravation du phénomène. Il y a une augmentation.
Il y a des facteurs surtout de fragilisation de la femme. Il y a des manières de penser le territoire, la ville, l'espace urbain qui fragilise la femme. C'est au-delà de la question économique, c'est une question qui va bien au-delà et qui est comment notre société est façonnée.
Alors, notre société, elle est façonnée notamment autour de la cellule familiale. Tout à l'heure, vous soulignez à quel point le capitalisme est venu perturber un certain nombre de structures, notamment la structure familiale. Alors, il est frappant de voir qu'il y a une persistance dans la culture féministe de travailler sur la question familiale et notamment du côté du féminisme gauchiste, de vouloir la destruction de la famille. Ça commence avec, ça commence sans doute avant, mais là, dans votre texte, dans votre ouvrage, il y a cet article absolument passionnant sur Alexandra Kollontai, qui est donc une femme russe révolutionnaire début du XXe siècle, féministe, faisant partie de l'opposition ouvrière, donc elle s'oppose à la bureaucratisation du parti, et elle essaie de penser la révolution à la fois en termes de classe et en termes de genre, et elle considère qu'il faut détruire la cellule familiale, elle en vient à penser des structures sociales qui prendraient intégralement en charge l'éducation et la toute petite enfance. Et au fond, c'est un fantasme qui a traversé tout le XXe siècle. Il y a eu des expérimentations. Les kibboutzim ont essayé aussi en Israël de collectiviser complètement l'éducation des enfants et de rompre avec le noyau familial. Alors que dès le départ, cette proposition-là, Lénine déjà disait « Oh là là, détruire la famille, casse-gueule, prématuré, dangereux, en plus ça va faire désaimer la révolution ». On risque de susciter de l'animosité. Alors, où est-ce qu'on en est aujourd'hui dans la pensée féministe contemporaine avec le projet de détruire la famille? Est-ce que ça continue? Je vois qu'il y a un des articles qui en appelle à nouveau à ça, à la destruction de la cellule familiale, en externalisant complètement toutes les tâches éducatives. Ça vous paraît en effet un projet d'avenir, détruire la famille?
Alors, moi, je ne veux pas dire que je suis comme Lénine, mais moi, je ne pense pas que Lénine il est contre l'idée de détruire la famille, mais que Lénine, il intervient au sortir de la guerre civile dans un pays qui est plus paysan qu'autre chose. Et du coup, il se dit que ça ne va pas se passer en un coup, un seul. Et du coup, nous, comme une grande partie du mouvement féministe qui pense à la destruction de la famille, on pense ça en termes de processus. Mmh. Effectivement.
C'est un processus désirable à long terme.
Je pense qu'il faut que, par exemple, aujourd'hui, ce qu'on appelle la famille. Après, il faut savoir ce qu'on appelle la famille. Ouais. Aujourd'hui, ce qu'on appelle la famille, c'est la famille nucléaire, ouais, telle qu'elle a été aussi façonnée par le capitalisme. Et que d'autres solidarités soient possibles, que chacun puisse s'y agencer, parce que s'occuper de ses enfants, par exemple, c'est aussi un travail.
Bien sûr.
Et donc que chacun puisse aussi, à son échelle, considérer quelle place il a dans son travail, dans ce travail-là. Et puis par ailleurs, c'est pas des choses qui sont très lointaines. Moi, je viens de la pauvreté et on peut voir le tableau d'une famille de 12 enfants. On allaite les enfants et puis on peut aussi allaiter celui de la voisine qui travaille. Les enfants peuvent avoir des frères de lait. Il y a parfois 10, 15 ans, 20 ans de différence entre les enfants. Donc les garçons s'occupent aussi des petits frères, des petites sœurs, les grandes sœurs, les voisins, les tatis, les tontons. On est 35, 45, 60 nièces et neveux. Bon, aujourd'hui, cette solidarité et ces savoirs-là, parce qu'il y a aussi ça, des jeunes filles qui ont des savoirs sur la petite enfance qu'ont pas aujourd'hui d'autres personnes dans des structures nucléaires beaucoup plus... Donc ces solidarités-là ou ces dépendances, plutôt aujourd'hui, elles peuvent se construire dans les marges de l'extrême pauvreté, parce que c'est une des rares ressources qu'on laisse à la pauvreté, la solidarité familiale. On pourrait très bien imaginer une explosion de la famille qui ressemblerait plus à ces formes de solidarité, mais qui serait opérée de manière beaucoup plus libre, joyeuse, savante, dans le cadre d'un partage de l'affection, mais aussi des savoirs, et puis du travail.
Oui, mais alors justement, là, dans cette manière de revenir à des modèles de solidarité familiale, au fond, qui sont des modèles plus traditionnels.
Ça va au-delà de la famille, c'est ce que je veux dire. C'est que la famille, ce n'est plus papa, maman, papy, mamie. Oui. La famille, ça va bien au-delà, et ça peut être les voisines, ça peut être la communauté dans son ensemble.
Alors, ça, j'ai le sentiment que ça peut d'autant mieux fonctionner qu'on arrache nos vies à l'aliénation dans l'emploi. Ce qui est frappant de constater à mesure qu'on lit les articles, c'est de voir qu'à chaque fois qu'il y a des revendications en termes de statut économique, les revendications à l'heure actuelle consistent à vouloir que l'État-providence reprenne en charge un certain nombre de prestations sociales afin de soulager les femmes de cet asservissement dans lequel elles sont piégées. Et donc demander en gros à l'État, libérez-nous de nos enfants et de nos vieux, parce qu'il y a aussi la question de la dépendance des seniors qui retombe sur les femmes, libérez-nous de nos enfants et de nos vieux, Et ça donne l'impression, comme ça, on va pouvoir continuer à s'aliéner dans l'emploi, alors qu'il y a une autre manière de revendiquer pour retrouver des conditions d'existence un peu émancipées, qui serait plutôt, libérez-nous de l'aliénation dans l'emploi, et comme ça, on pourra vivre heureux, en famille ou pas, et prendre soin de nos jeunes, de nos anciens, comme on le veut. Par exemple, un modèle comme le salaire à vie, qui consiste à sortir de l'aliénation dans l'emploi et permettre à chacun d'exister sans s'assujettir comme ça aux exigences de l'employeur. Ce type de modèle me paraît infiniment plus émancipateur que de demander à l'État de nous soulager de nos tâches reproductives, ce qui nous libère en fait pour faire de nous de bons esclaves du capitalisme. Vous voyez ce que je veux dire? Est-ce qu'il ne faut pas changer de logiciel dans la lutte féministe?
Le salaire à vie tel que vous le décrivez, c'est le chacun chez soi. On retourne chacun chez nous et pour s'occuper de nos propres vieux, pour s'occuper de nos propres enfants. Mais surtout, ce que vous appelez l'emploi, c'est le travail. Et s'occuper de ses enfants, s'occuper de ses vieux, c'est aussi, comme je le disais, c'est aussi un travail. Donc,
C'est un travail, justement, dans une société qui nous écrase par l'asservissement dans l'emploi. C'est-à-dire qu'effectivement, si c'est des heures de travail domestique à fournir en plus de, déjà, une journée très chargée dans l'emploi capitaliste, évidemment, c'est un travail. Mais il arrive d'ailleurs que certaines féministes essaient de s'exprimer sur ça, le fait de prendre soin de son intérieur. Il y a le bouquin de Mona Chollet. Alors, pardon, je ne l'ai pas lu, mais je sais qu'elle a travaillé sur ça, sur l'idée que s'occuper de son intérieur, c'est pas... Enfin, on peut lui donner le signe de l'asservissement, mais on peut aussi lui donner le signe de... Mais c'est aussi du temps, du soin de soi, de son environnement, et ça pourrait être vécu comme un temps contraire à l'exploitation capitaliste.
Mais le salaire à vie n'est pas la seule condition du soin qu'on prend à chacun, à son chez-soi et à son espace.
C'est toujours plus difficile de le faire quand on est aliéné dans l'emploi, quand on passe 8 heures par jour en dehors de chez soi parce qu'on fait gagner de la plus-value à son employeur. C'est plus difficile de prendre soin de soi, de son environnement et des siens.
Je suis d'accord, mais prendre soin des siens, comme je le dis, c'est aussi un travail et libre à chacun aussi de l'exercer comme il entend.
Oui.
Alors, ça ou de aussi... ne pas l'exercer.
Ou de ne pas l'exercer, absolument. Bien sûr, il ne s'agit pas d'en faire une obligation morale, évidemment pas. Mais pareil, parmi un certain nombre de manières de poser les problèmes que je découvre dans ce recueil d'articles, il y a, à nouveau, toujours l'idée que le néolibéralisme fait beaucoup de mal à la condition des femmes en réduisant un certain nombre de prestations sociales. Et du coup, les femmes se retrouvent assignées aux tâches reproductives. Et à aucun moment n'est interrogée la place des hommes dans les tâches reproductives. Le soin apporté à la petite enfance ou aux seniors dépendants, ça retombe toujours sur les femmes. Mais au fond, là, il n'y a pas d'assignation biologique autour de ça. Il n'y a aucune raison que ce soit les mères qui s'occupent d'un enfant qui n'est plus allaité, par exemple. Aucune raison que ce soit les femmes qui s'occupent des vieux. Or, on observe des persistances idéologiques. Et des persistances idéologiques à assigner ces missions-là aux femmes plutôt qu'aux hommes. Donc, il y aurait un énorme travail idéologique à faire pour redistribuer ces tâches-là.
C'est évidemment pas abordé profondément dans cet ouvrage-là, parce que cet ouvrage, il vient après des centaines, et dans le cadre d'un champ théorique féministe qui existe déjà, et ça, penser la répartition des tâches, par exemple, il y a toute une sociologie féministe qui ne fait que ça.
D'accord.
Et d'ailleurs, il n'y a pas que la recherche qui se concentre essentiellement sur la répartition des tâches entre les hommes et les femmes. Il y a toute une comptabilité de combien d'heures... Est-ce que le jardinage, c'est une tâche domestique? Est-ce qu'on la compte ou pas? Combien d'heures les femmes passent en moyenne? Quel est le temps médian passé par les femmes? Est-ce qu'un homme au chômage, en fait, il fait pas encore moins de tâches ménagères? Et est-ce que, du coup, c'est pas encore plus d'heures pour la femme? Alors ça, il y a toute une littérature,
d'accord,
y compris jusque dans les ministères.
D'accord, documente les faits.
Alors ça, pas que les faits, qui pose cette question quasi inter-individuelle comme la seule manière aujourd'hui de mener une politique égalitaire. Je pense que c'est important de réfléchir à la répartition des tâches, mais aujourd'hui, ça fait à peu près 30 ans que c'est la seule manière d'envisager l'égalité entre ce qu'ils appellent hommes et femmes aujourd'hui. Mais ça, même dans les ministères, c'est une question qui
oui, enfin, une chose est de faire, de relever les faits, statistiquement, quel volume horaire est consacré par les uns et par les autres, par les unes et par les autres. Relever les faits d'une part, mais Une autre chose serait de réfléchir à comment on arrive à infléchir ces comportements-là, c'est-à-dire comment on arrive petit à petit à déféminiser les fonctions reproductives. Je parle là de ce qui ne relève pas du biologique, on pourra revenir après au biologique. Hein. Déféminiser les tâches biologiques, là, il y a un travail imaginaire, un travail idéologique à faire, donc des outils sans doute culturels dont il faudrait s'emparer, les fictions, le cinéma, je ne sais pas, parce que travailler un imaginaire... ça suppose d'autres outils que la lutte politique au sens strict. Et là aussi, j'ai l'impression que sur cette question de l'idéologie ou de l'imaginaire, ce sont des directions qui sont assez peu explorées par les auteurs de ce recueil.
Parce que je pense que ce sont évidemment des questions importantes, mais la manière dont elles sont abordées, et notamment là, c'est deux écueils aujourd'hui du féminisme. C'est-à-dire que soit le féminisme est pensé comme... un élément de pratique et de politique qui s'adosse uniquement à l'État et à ses appareils répressifs, soit comme une éthique
personnelle, individuelle, voilà. Chacun dans sa vie, mais se débrouille
au-delà
avec
de
son
chacun
conjoint,
dans sa vie, c'est aussi comment on réinvente une éthique, une morale féministe. Et du coup, c'est vrai que c'est des questions qu'on travaille pas beaucoup en ce sens-là parce que on s'inscrit plutôt dans des pratiques et dans des perspectives stratégiques de l'ordre du marxisme révolutionnaire.
Ouais.
Donc on travaille pas beaucoup sur l'éthique, ouais, effectivement.
Et alors, j'abordais il y a un instant la question de l'assignation biologique. Alors évidemment, il y a une part de la servitude des femmes qui est liée à leurs conditions biologiques, le fait que dans les tâches reproductives, la gestation et l'allaitement sont des tâches strictement féminines. Il y a une direction qui a été parfois explorée, je pense notamment par Marcela Yacoub, sur la question de l'externalisation technique, mécanique, de la gestation. Je me souviens d'un article qu'elle avait fait paraître dans Libé où elle parlait des couveuses à embryons. Et ça, pareil, alors qu'on peut dire après tout, pourquoi pas, même si évidemment ça fait réagir, ça hérisse un peu le poil d'imaginer ça, des couveuses à embryons, mais au fond, puisque l'aliénation des femmes tient en grande partie à leur condition biologique d'être reproductrice, au sens où nous abritons la grossesse et l'allaitement, est-ce que l'émancipation des femmes, ça consiste pas à explorer aussi les voies de la mécanisation, de la technicisation de la gestation et de l'allaitement? Ou bien est-ce que ces voies-là, elles sont d'emblée suspectées d'être capitalistes parce qu'on suppose qu'il faut une technologie en général que seul le capitalisme arrive à produire?
Mais non, justement, à propos de cette technologie, on pourrait revenir dessus, mais que Marcela Yacoub se rassure, le capitalisme s'accommode très 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 bien de ses couveuses, et elles existent déjà, sauf que le capitalisme, en fait, il n'est pas le vecteur d'un progrès technologique. Au contraire, le capitalisme, il s'évertue toujours à penser en termes de réduction des coûts. Et on n'a pas besoin de lancer une recherche très très pointue pour de telles couveuses, parce qu'on peut en obtenir à prix très bas. Et il y a un article dans la revue Période de Kevin Floyd qui s'intéresse à ça et qui est la manière dont, dans la nouvelle division internationale du travail, on fait des ventres des femmes, et notamment des femmes du Sud ou en Asie du Sud-Est, des machines à embryons, des mères porteuses. Et ça s'inscrit tout à fait dans le capitalisme, donc c'est que Marcela Yacoub se rassure.
Oui, mais alors justement, quand on est féministe révolutionnaire, qu'est-ce qu'on pense de la gestation pour autrui? On considère que c'est effectivement une pratique de marchandisation du corps des femmes qui est à proscrire totalement, ou est-ce que on raisonne en situation, c'est-à-dire là, vu la situation de pauvreté, de précarité des femmes dans les pays du Sud, évidemment ce qu'il faut c'est lutter contre les phénomènes macroéconomiques qui ont généré cette précarité, cette pauvreté, mais en attendant, est-ce que ce genre de prestations, il vaut pas mieux les réguler comme avec la prostitution? C'est-à-dire, puisque ça existe, puisque ça se met en place, est-ce qu'il vaut pas mieux s'efforcer de réguler dans le respect de chacun plutôt que de proscrire complètement? Quelle est la position pertinente?
Alors, si on veut continuer avec l'analogie sur la prostitution, pour les coordinateurs et les auteurs de cet ouvrage, je pense que sur la prostitution, par exemple, Morgane Merteuil fait partie des coordinatrices On n'est pas du tout sur une perspective de réguler la prostitution. L'idée, c'est pas des nouvelles lois, des nouveaux cadres ou des nouveaux patrons pour les prostituées, mais c'est plus de droits, ou au moins les mêmes droits pour tous.
Bah c'est donc, là, on ne comprend pas la nuance. Vous dites, c'est pas, on ne veut pas réguler, c'est-à-dire on ne veut pas des droits, on veut plus de droits. Du coup, je n'ai pas compris.
Non, on ne veut pas des droits spécifiques. Je ne sais pas dire, on ne veut pas de droits, c'est des droits D'accord. spécifiques ou même des devoirs spécifiques. Auxquelles seraient astreintes les prostituées ou des nouveaux patrons ou des nouveaux moyens de répression pour celles qui rentreraient pas dans les cadres de cette nouvelle régulation. L'idée, c'est plus de droits, une manière de se défendre.
Oui, c'est l'auto-organisation. Hein, parce que le modèle qui est mis en avant, c'est la possibilité pour les travailleuses sexuelles, travailleurs sexuels, d'avoir recours à des formes d'auto-organisation, pouvoir louer ensemble un appart, ce genre d'approche très, très, très concrète.
Et pour la GPA, ça serait la même chose. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de vivre sur l'exploitation des ventres des femmes du Sud dans ce cadre-là.
Notre position, ma position a toujours, a été toujours que l'important est créer des possibilités pour que, parce que les femmes peuvent choisir, mais pas d'imposer des modèles. Parce que ce n'est pas à nous de décider quel type d'exploitation on choisit, non? On préfère. C'est pas à un mouvement de lutte de décider, non? Quel type de travail, non? On veut faire de assurer qu'il y a des possibilités d'échapper de l'exploitation, d'échapper des travaux qui sont fondés. Non, des rapports qui sont dégradants. Non? Et privilégier le travail sexuel comme un travail particulièrement négatif est vraiment aveugle. Parce que si on considère, par exemple, le type de travail qui se passe dans les zones de libre commerce, non? En Bangladesh, en Amérique latine, les maquillas sont avant tout des formes de travail qui sont complètement perméées du travail sexuel, où beaucoup de temps, les femmes ne peuvent pas refuser des rapports sexuels et n'ont pas du contrôle sur leur corps. Vous savez, par exemple, que les milliers de femmes les 1000 femmes qui sont mortes en Bangladesh et l'autre femme qui sont mortes en Chine ou en Amérique latine dans les zones de libre commerce, beaucoup de fois elles sont mortes parce que lorsqu'il y avait une fire, un incendie ou d'autres problèmes sur le lieu de travail, non, les portes étaient fermées. Non, les portes étaient fermées. Et c'est la façon comme se travaille dans ce lieu, que tu travailles jusqu'à la nuit, que tu n'as pas une horaire de travail. Tu travailles jusqu'à 2 heures, 3 heures. Non, il n'ouvre pas la porte jusqu'au moment que tu as terminé ton travail. Il décide combien de pièces de travail tu dois produire. Et si tu ne le fais pas, il ne te laisse pas sortir. Non? Alors, qu'est-ce que signifie contrôle sur notre corps dans cette situation? Et je crois que c'est très important de réfléchir sur ça.
Alors, parce que là, ce que vous mettez en avant, c'est absolument passionnant et c'est stupéfiant et accablant à la fois. Hein, quand vous mettez en avant ce commerce mondial, effectivement, du ventre des femmes, hein, c'est que dans la totalité de ce féminisme que vous mettez en avant, cette totalité, c'est la totalité du monde. Et le livre fait très bien apparaître à quel point le capitalisme s'est parfaitement globalisé et que c'est une économie, effectivement, une économie monde dans laquelle, en fait, on produit à la source les travailleuses qui vont venir assurer dans les pays du Nord les tâches de reproduction sociale. Hein. On voit aujourd'hui au sortir des écoles des nounous blacks partout. Hein. C'est les nounous noirs ou arabes qui viennent faire la sortie des écoles. On voit bien qu'il y a un flux là de main-d'œuvre dont le livre montre très bien à quel point cette main-d'œuvre féminine elle a été produite à la source en allant faire des politiques d'ajustement structurel dans les pays du Sud, qui ont déstabilisé les modèles économiques, qui ont amené du coup à des flux migratoires très importants. Et on voit que le rapport qu'on a aux flux migratoires est très différencié selon que ce sont des hommes ou des femmes. Alors là, il y a absolument plein de choses à dire sur ça, le regard différencié qu'on a sur les hommes et les femmes venant dans les flux migratoires. Et c'est là qu'apparaît le concept de fémonationalisme que j'ai découvert en vous lisant. Je ne savais pas que ça existait, enfin, je n'avais pas identifié ce phénomène. Alors peut-être vous pouvez expliquer ce que c'est que le fémonationalisme.
Le fémonationalisme, c'est un concept introduit par une jeune féministe marxiste, mais de premier plan, Sarah Faris. Alors évidemment, son développement autour du féminationalisme y rejoint des critiques féministes déjà produites en France sur ce que certaines nomment comme une instrumentalisation du féminisme à des fins racistes, ou plutôt comment des partis de gouvernement jusqu'à l'extrême droite reprennent en fait des éléments du féminisme dans une perspective raciste hein, pour donner un peu des sorts à leurs arguments racistes, pour rallier des franges plus larges de la population à leur agenda raciste. Mais ce qu'opère Sarah Faris dans un ouvrage récemment paru en anglais et dans cet article en fait qui est la base de cet ouvrage, c'est d'abord montrer combien aujourd'hui s'il y a un secteur qui depuis les années 70 n'a pas du tout fléchi et depuis le credit crunch, une espèce d'explosion comme ça depuis 2008, un secteur où les migrants arrivent et qui est en explosion, c'est un secteur essentiellement féminin, qui est le travail du care, c'est-à-dire le travail du soin à la personne, c'est-à-dire la prise en charge des enfants, le ménage et la prise en charge des personnes dépendantes et notamment des personnes âgées. Et ça, c'est un secteur où on ne cesse d'employer. Donc on n'est plus du tout dans l'armée de réserve qu'a pu être, dans laquelle ont pu être les hommes migrants, c'est-à-dire les dernières embauchées, les premiers licenciés, mais une armée régulière et qui est extrêmement qui produit extrêmement beaucoup de valeur et qui permet aussi aux femmes blanches, pour le coup, d'intégrer d'autant plus le marché du travail.
Il faut savoir qu'on est dans une situation financière très difficile. Si on veut que les fonctionnaires, les employés du secteur public aient des augmentations de salaire, dans un contexte financier comme cela, il n'y a qu'une seule solution, c'est de proposer une augmentation du temps de travail.
39 heures, on les fait déjà. Mais, alors, on récupère la RTT.
Eh bien, il faut qu'elle soit payée.
Mais nous, on a besoin de notre RTT pour reposer. Parce que l'épuisement professionnel, il arrive aussi.
On est deux. Deux pour 84 la nuit. Il faut répondre au téléphone, il faut répondre aux sonnettes. On fait les soins jusqu'à avoir 3 heures du matin.
Vous dites que je ne pouvais pas faire 39 heures hebdomadaires.
Non, c'est pas possible.
L'épuisement
déjà en travaillant de nuit.
Je pense simplement que partout autour de nous, on est à 39 heures.
Voilà. Ce qu'on a besoin, c'est des moyens humains.
Oui, mais il faut le payer, madame.
Mais oui. Donc on attend de votre part, il faut
que je fasse de la dette supplémentaire.
Pas de dette.
Ben oui, mais si, c'est
pas
ça
de
aujourd'hui.
Dette, nous,
la moitié quasiment de notre budget
est en dette. Mais nous, on a besoin du personnel parce que nous travaillons avec les humains.
Il faut trouver un compromis, donc plus de personnel, mais aussi aussi un peu plus d'heures travaillées.
Alors, on a un regard sur ces femmes migrantes qui est assez particulier. Je cite ici justement le papier de Sarah Faris. Dans la mesure où elles sont considérées comme les corps utiles aux générations futures, notamment en tant que remplaçantes des femmes nationales dans le secteur reproductif, les femmes migrantes semblent devenir les cibles d'une campagne de bienveillance trompeuse dans laquelle elles sont nécessaires en tant que travailleuses, tolérée en tant que migrante et encouragée à se conformer aux valeurs occidentales en tant que femme. Alors, encouragée est un euphémisme qui recouvre toutes les paniques morales qu'il y a pu y avoir autour des problèmes, entre guillemets, du voile. Hein, c'est pas un hasard si les grandes polémiques du voile, c'est sur la crèche Babylou. Donc on est dans le secteur éducatif, petite enfance, sur les femmes voilées qui accompagnent les sorties scolaires. Là, on voit bien que, en fait, la question du voile, elle est très souvent, elle fait l'objet d'une panique morale quand elle est associée aux tâches reproductives, éducatives, auxquelles ces flux de migrantes sont toujours associés. Donc on voit bien comment ça marche. En gros, on dit à ces femmes, on vous prend pour venir faire une armée, effectivement, pour faire le travail du soin. Mais comme c'est un travail affectif, que vous jouez un rôle éducatif auprès de nos enfants, alors on vous demande de vous conformer à nos valeurs occidentales, c'est-à-dire de renoncer au voile. Donc en fait, l'islam, ici, si le voile est l'expression de l'islam, l'islam est en quelque sorte laissé à la porte du flux migratoire. On dit on vous prend, vous, comme éducatrice, mais on ne vous prend pas avec vos convictions. C'est une espèce de tri sélectif dans ce qu'on prend dans le flux migratoire. C'est ça.
Ouais, et comme vous le soulignez, en fait, ça va bien au-delà d'une panique morale, vu que pour ce faire, il a fallu des dispositifs légaux. C'est-à-dire des dispositifs légaux contre ce qu'on a appelé les nounous voilés, des dispositifs légaux, des circulaires contre les mamans, effectivement, qui accompagnent les sorties scolaires et qui porteraient un voile. Donc, ce qui, quand vous dites qu'elles font le travail éducatif, c'est bien plus qu'un travail éducatif, c'est qu'on peut aussi, là, parler de travail reproductif, parce que la tâche qu'on attend d'elles, auprès de nos enfants notamment, c'est une reproduction de la race. Mmh. C'est-à-dire, ce qu'on veut, c'est des nounous noirs, comme vous le disiez, qui poussent des poussettes, mais qui élèvent des enfants blancs.
Mmh. Bien sûr. Alors du coup, quelle est la position du féminisme institutionnel, tout ce qui est oser le féminisme et tout ça, sur ces paniques morales autour du voile? Elles ont pris des positions sur les mères accompagnatrices de sorties scolaires ou sur Babylou. Est-ce qu'on a entendu le féminisme institutionnel sur ces polémiques-là? Est-ce qu'elles sont rentrées là-dedans?
Ça date d'il y a 3 ans, alors je ne sais plus si elles ont pris position et comment elles ont pris position. Ce qui est sûr, c'est que osons le féminisme, et au-delà de ça, hein, le féminisme hégémonique, mais osons, si on peut parler de oser le féminisme, pardon, oser le féminisme, pas confondre.
Avec... Oui, avec un osons causé.
Mais c'est, oui, c'est.
Donc, oui, oser le féminisme.
Elles se sont toujours inscrites dans un agenda plus ou moins laïcard et voire complètement laïcard, même si il y a eu une crise interne, en fait,
ah bon,
à oser le féminisme, avec une partie des militantes et des certains collectifs aussi locaux qui ont rompu sur la question raciale.
Ah d'accord. Ouais. Et donc ça s'est splitté en des organisations différenciées, ou bien
il y a des pertes de militants, il y a des bureaux qui se refondent.
Ah bah c'est plutôt bon signe s'il y a une crise autour de cette question-là. Ça veut dire qu'elles finissent quand même par s'interroger sur la pertinence de leur position.
Mais si par exemple on regarde ce qui s'est passé depuis 2004. Pourquoi 2004? Parce que c'est le vote de la loi dite sur le voile à l'école. Évidemment la loi est passée. Et ça a eu des conséquences dramatiques. Évidemment, les camarades qui à l'époque se positionnaient contre ceux qui se positionnaient contre la loi, sur la base d'un espèce de ni voile ni loi, ces camarades-là, une fois que la loi est passée, on les a pas vus lutter contre la loi et son abrogation. Mmh. Aujourd'hui, si on peut par exemple se féliciter que le candidat Poutou appelle de manière répétée à l'abrogation de cette loi du 15 mars 2004. Mmh. Mais si on a perdu sur le terrain législatif, on peut considérer que ces forces-là, le collectif féministe pour l'égalité, le mouvement des indigènes de la République, à l'époque c'était un mouvement où les camarades comme ceux de Les Mots sont importants, que cette frange-là a gagné aussi, parce qu'aujourd'hui on ne peut plus s'inscrire dans un agenda raciste depuis les franges féministes de la même manière qu'on le pouvait dans les années 2000. Mmh. Mais c'est aussi...
Vous dites que le rapport de force idéologique a changé?
ou en tout cas que des arguments ont pénétré l'autre camp et qu'on peut plus dire les choses de la même manière et que au début de, en introduction de cet entretien, vous soulignez la manière dont la question de l'intersectionnalité aujourd'hui très prégnante dans tout le débat féministe, c'est aussi parce que l'intersectionnalité permet de penser des rapports de race. De montrer comment les rapports de genre sont aussi racisés, comment les rapports de race sont aussi genrés. C'est aussi une victoire de ce camp-là. Ce qu'il nous faut pour parachever cette victoire, ou en tout cas, aujourd'hui, pouvoir être à même de produire un mouvement féministe ou des pratiques féministes ou une politique féministe qui soit réellement révolutionnaire, c'est peut-être, au-delà de ce travail de déconstruction, c'est désormais proposer un programme.
Ouais.
Et c'est peut-être l'idée de démarches comme celle-ci, mais de bien d'autres aujourd'hui, parce que si on revient encore à 2004, comment on en est arrivé à 2004 ? Pourquoi cette focalisation sur le voile et comment aussi les féministes ont-elles pu se ranger de manière aussi impressionnante, de manière aussi majoritaire derrière cette loi ou en tout cas contre les collectifs qui luttaient contre la loi. Parce que je pense que à ce moment-là, le féminisme était dans un vide programmatique absolument dramatique. Le symbole dont on a porté le voile pendant longtemps comme le symbole de l'oppression des femmes.
Et de fait, Alexandra Kollontai, que je citais tout à l'heure, l'une des tâches qu'elle s'était donnée, c'était de faire enlever le voile aux femmes voilées qu'elle croisait à l'époque, au Turkestan.
On peut faire dire ça à Kollontai, mais elle peut dire aussi l'inverse à d'autres moments. Et surtout, les politiques bolcheviques vis-à-vis de l'islam, elles ont été diverses et extrêmement étonnantes. Aujourd'hui, on a oublié qu'ont existé des républiques bolcheviques islamiques. On publie dans Période des textes sur, mais part aussi, de un bolchevique musulman qui était Sultan Galiev, qui était un dirigeant bolchevique musulman pour... Donc voilà, c'est ça, chez les bolcheviques, on peut trouver les deux camps peuvent vraiment se réclamer du bolchevisme de ce point de vue-là. Mais d'abord, nous, ceux qui veulent pratiquer une politique révolutionnaire, je ne sais pas si c'est vraiment au symbole qu'on doit s'attacher. Et comme je vous le disais, pour revenir à 2004, le voile, c'était surtout le symbole du vide programmatique des féministes.
Ouais.
C'est-à-dire que à ce moment-là, elles s'étaient peut-être tant adossée aux politiques étatiques qu'elle n'avait pas de projet à proposer et que tout d'un coup, d'abord, ces histoires de voile, ça leur donnait une aura médiatique assez incroyable.
Ouais.
Je crois qu'au moment des débats sur la loi, c'est-à-dire autour de 2003, la marche du 8 mars 2003, on n'a jamais vu autant de féministes et au-delà, c'est-à-dire de gens pour le droit des femmes dans la rue. C'est ni pique ni somise, ça leur a donné une espèce d'aura médiatique. Et donc c'est pour ça que je dis ce qu'il nous faut aujourd'hui, c'est pour pas non plus retomber dans des écueils pareils, c'est que le féminisme soit une force propositionnelle et une force qui puisse porter un projet de transformation sociale réel, parce que le féminisme en a les moyens.
Ouais.
Pourquoi ? Parce que comme je le disais au début, c'est que le féminisme, de par les questions qu'il charrie, parce que ça vise à la libération, à nous libérer des oppressions sexuelles et de genre, s'attaque directement et devrait s'attaquer directement à l'État, à la famille et à la propriété privée. Et je pense que c'est une bonne manière de commencer un projet de transformation sociale.
Alors, en termes programmatiques, il y a une des voies qui est proposée dans l'ouvrage, qui est la voie du syndicalisme, en fait, de féminiser le syndicalisme ou d'intégrer des revendications féministes dans le syndicalisme. Par exemple, en féminisant les revendications des syndicats, s'assurer, par exemple, que les services de garde fassent partie des revendications. Là, je cite un des articles, « La syndicalisation féministe pourrait modifier les revendications des mouvements sociaux et décaler considérablement le terrain de la lutte des classes. » Ça voudrait dire ouvrir des sections féministes dans les syndicats existants ou créer un syndicat général des travailleuses, un syndicat féministe général. Quelle serait la piste à explorer?
À partir d'une pratique syndicale, comme pouvait l'être le STRAS, le syndicat des travailleuses du sexe, il y a encore quelques années, au moment où Morgan Merteuil en était la secrétaire générale, par exemple.
Ouais.
Comment porter un projet de transformation sociale, comme je le disais, à partir du féminisme, c'est-à-dire comment on va repenser aujourd'hui la question des congés, la question de la cantine scolaire, la question de la crèche, pas uniquement comme quelque chose que seul l'État devrait inventer, devrait réfléchir, mais comment collectivement, à partir de positions syndicalistes révolutionnaires, on peut réinventer ce que c'est que la cantine, la crèche, et peut-être même l'école, depuis une perspective féministe.
Avec le risque de se voir reprocher à chaque fois une sorte de séparatisme, je reviens encore à la figure d'Alexandra Kollontai qui m'a absolument fascinée, dont je suis très éprise, je l'ai découverte dans ce bouquin. Kollontai, donc à la fois révolutionnaire et féministe, se voit reprocher par les bolcheviks d'être féministe, et ça veut dire séparatiste. C'est-à-dire, elle est accusée, en gros, de fragiliser la lutte des classes parce que, en créant une sous-catégorie, en faisant apparaître la catégorie des femmes comme catégorie d'oppression, elle semble menacer le projet de la lutte générale de la lutte des classes. Et en lisant ça sur Kollontai au début du XXe siècle, je me dis, mais en fait, on n'en a pas fini. L'intersectionnalité va continuer de se heurter à ces problèmes. C'est qu'à chaque fois qu'on commence à théoriser une nouvelle catégorie d'oppression, notamment la question de l'oppression raciale, on se voit toujours reprocher de faire du séparatisme par rapport à la seule lutte légitime qui est la lutte des classes. Et j'ai l'impression que ce que Kollontai a eu à essuyer comme reproche au début du XXe siècle, « Ah, mais en tant que féministe, tu fragilises la lutte des classes parce que tu te sépares », on le reproche aujourd'hui aux décoloniaux. C'est exactement le même schéma discursif. Hein. C'est mais vous, les racisés, vous mettez trop en avant la question des races et du coup, vous ne mettez pas dans votre logiciel la lutte des classes, vous ne la mettez pas au bon endroit, donc vous faites du séparatisme. Et je pense que là, ce que vous mettez en avant d'un syndicalisme féministe se verra reproché par les gauchistes patriarcaux, il y en a, de refaire de la séparation de genre, comme on reproche aux décoloniaux de faire de la séparation de race, quoi. On se heurtera toujours au reproche de la division qui freinerait la lutte d'émancipation en dispersant les luttes, au lieu de tous se rallier à la seule lutte reconnue comme légitime par les gauchistes, qui est la lutte des classes.
Alors d'abord, il faut se rendre compte que les critiques qu'a essuyées Kollontai, elles étaient d'une autre facture que ce qu'aujourd'hui des camarades à l'extrême gauche peuvent reprocher aux féministes,
c'est-à-dire,
ou aux militants antiracistes.
C'était plus doux ou plus dur?
Je pense que les politiques bolcheviques étaient bien plus avancées sur les questions féministes et ont pensé par exemple la transsexualité comme aucun des organisations à gauche de la gauche aujourd'hui.
Donc c'est aujourd'hui qu'ils sont réactionnaires ils étaient plus en avance les bolcheviks du début du XXe siècle que les gauchistes blancs d'aujourd'hui.
Il me semble quand même.
Ouais.
Sur la question aussi de l'analogie. Avec aujourd'hui les mouvements antiracistes ou décoloniaux ou de racisés, même si moi j'emploie pas trop le mot racisé,
d'accord,
parce que je trouve que vous êtes pas moins racisé que moi. Je pense qu'être blanc c'est aussi une racialisation.
Ouais,
c'est vrai,
d'accord.
Mais bon, ça c'est
donc
juste
une
parenthèse. Les non-blancs, quoi, les gens
les
qui sont pas blancs, quoi.
D'accord.
Mais on peut dire, enfin, on peut dire racisé, mais c'était juste un détour un peu rapide.
Bon,
pour parler de cette analogie, moi, je fais très attention à pas trop jouer ce jeu de l'analogie, qui est une pratique courante aujourd'hui pour réfléchir, et notamment pour réfléchir les questions identitaires, pour deux choses. D'abord parce que ces analogies à travers le temps, de Kollontai jusque à ceux qu'on appelle les racialistes aujourd'hui ou les islamo-gauchistes, il se passe une très longue période. Et puis d'autre part, c'est imaginer que d'abord il y a eu les femmes. On a eu à libérer une idée progressive comme ça des luttes qui est complètement fictive, mais par contre qu'on nous vend matin, midi et soir. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la question démocratique, elle est toujours pensée comme ça. On a libéré les différentes fractions, couche par couche. Donc d'abord, il y a eu les femmes, puis les colonisés, les PD, bientôt les Green.
Et s'agissant de la production théorique, il y a quand même des étapes, que dans les faits...
Par exemple, au même moment où Kollontai... s'adresse au parti bolchevique ou propose une politique bolchevique féministe, il y a aussi une réflexion sur la question raciale, où on parlait tout à l'heure de Sultan Galiev, sur la religion, sur les colonies, qui était extrêmement aboutie. Il y a eu des politiques dans les années 20-30, il y avait par exemple en France, dirigée par l'Internationale communiste, contre le PCF français, donc dans les années 20-30, parmi les dockers marseillais noirs, un comité de défense de la race nègre. Ça paraît complètement insensé aujourd'hui. Donc, se dire, ah, mais est-ce qu'elles vont pas vivre de la même manière qu'ont vécu les féministes, les accusations de séparatisme, dont on devra passer. En fait, cette chronologie, elle ne se passe pas du tout comme ça. Ouais. Et il faut garder en tête ça pour toutes les luttes en général, pour se rappeler d'abord que le capitalisme peut être parfois mis en crise sur certains plans, pour se rappeler que on gagne parfois et qu'on recule d'autres fois, et que c'est pas parce qu'aujourd'hui on est dans une position très reculée qu'on n'a pas été gagnant à d'autres moments, et surtout ne pas penser de manière un peu compétitive les différents groupes sociaux ou de race ou de genre ou de sexualité comme des moments différents du progrès.
Oui. Et évidemment, pas de compétition victimaire de qui est plus victime.
J'ai aucun problème avec la victimisation. Moi, je pense que c'est un des premiers gestes militants. C'est-à-dire que je
pense pas déclarer victime.
Je pense pas que les colonisés algériens, pour pouvoir se mettre en lutte, ils disent non, mais moi, je suis pas une victime.
Non, je parlais de compétition victimaire. Oui, c'est-à-dire, nous, on est plus victimes que vous.
Oui, mais on parle aussi de victimisation, et que c'est quelque chose qui est souvent pointé du doigt. Et moi, je pense que c'est important et que c'est un premier geste. C'est le premier geste dans la lutte. C'est d'abord de se reconnaître victime.
D'accord.
Parce que le propre de l'oppression, c'est de vous convaincre que vous n'êtes pas opprimé. Donc, se dire victime, c'est jamais une mauvaise chose.
D'accord. Oui. Alors qu'on peut avoir le sentiment que se déclarer victime est une manière de renoncer déjà à la lutte, parce que c'est une position un peu de la plainte, de la déploration, qui semble du coup demander de l'aide, alors que
c'est toujours mieux de se plaindre soi-même.
Oui, mais enfin, il faut pas se satisfaire de la plainte, c'est-à-dire que ce qui compte par rapport à cette oppression, une fois qu'elle est déclarée, c'est évidemment de la combattre. Et donc là, on n'est plus dans la position de la victime, mais dans la position du combattant, de l'activiste d'une lutte. Ça me paraît une position plus constructive.
On est toujours victime. Hein, c'est...
D'accord.
Enfin, moi, j'ai rien fait de se déclarer victime, y compris dans la lutte, de continuer à considérer qu'on est victime.
Ouais.
Je pense que c'est un bon moteur, la rabia, comme disent les Espagnols, la rage.
La rage me paraît plus porteur d'activisme que la victime, peut-être parce que moi j'entends dans le mot victime quelque chose de l'ordre quelque chose de déploratif, et du coup qui a tendance à laisser faire cet ordre du monde oppressif, parce que ça consiste juste à dire j'ai mal, quoi. Je suis victime, ça veut dire j'ai mal.
Aujourd'hui, en France, quand on est victime de violences policières à l'échelle de masse, on essaye de nous expliquer que tous les policiers ne sont pas comme ça. Quand les femmes aujourd'hui sont victimes de sexisme, on essaye de leur expliquer que, tout aujourd'hui est fait pour expliquer aux victimes qu'elles ne sont pas victimes.
Oui, donc il y a un enjeu politique à reconnaître la pertinence
et à se dire victime.
De la notion de victime dans la situation.
En tout cas, il n'y a pas de pertinence à condamner la victimisation.
How did we allow a situation to happen in the state of California where a larger proportion of general funds goes to the prison system than to education? How did we allow that? I think a lot about the connection between education and incarceration. And I think a lot about the importance of abolishing imprisonment as the dominant mode of punishment. I'm not saying that people who commit horrendous acts against others, because there are some people who do that, I'm not saying that they should not be held accountable. But what I am saying is that the vast majority of people who are in prison have not done that anyway. 80% of women in prison are in on charges related to drugs. And they ought to just be released outright, right now.
Eh bien, merci beaucoup, Stella Magliani Belkacem, pour cet entretien. Alors, c'était un exercice très difficile, parce que donc, vous n'êtes pas auteur, sinon de cette introduction absolument magnifique, auteur avec donc Félix Boggio, Morgane Merteuil, Frédéric Monferrand, donc d'une introduction hein, qui fait un travail de synthèse et de problématisation de l'ensemble de l'ouvrage, que je vous recommande. Donc, il y a des contributions absolument passionnantes, formidables. Alors, évidemment, comme c'est un travail collectif, le lecteur a un travail à faire pour agencer les différents problèmes les uns aux autres. Hein, mais c'est une expérience de lecture totalement passionnante. Donc, je vous recommande Pour un féminisme de la totalité. Merci encore, Stella.
Merci.
Et à très bientôt pour un prochain Dans le texte. Salut.